Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient, Wallis Glaise. Voici les titres de votre journal. Frappe américaine la nuit dernière contre 3 sites nucléaires clés en Iran. Washington rejoint ainsi l'offensive lancée par Israël le 13 juin. Quelques heures après, l'Iran a lancé 40 missiles sur Israël et accusé les États-Unis de faire exploser les chances d'un règlement diplomatique du dossier nucléaire. Cela marque-t-il l'échec de la diplomatie américaine? Élément de réponse avec Evan Gafaiti, chercheur doctorant en relations internationales dans ce journal. Également, regard sur les conséquences de l'implication directe de ce dimanche des États-Unis dans la guerre contre l'Iran et Israël. Sur le sujet, le directeur du CERNAM, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, Hasni Abidi. Et puis enfin, en Syrie, un attentat suicide contre une église de Damas fait au moins 22 morts. On y revient dans cette édition. Pas de nouvelles frappes des États-Unis depuis l'intervention directe de Washington samedi en Iran. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir frappé des sites de lancement et de stockage de missiles dans la zone de Kermanshah. Les précisions avec François-Xavier de Calonne.
Oui, des frappes dans l'ouest de l'Iran. Elles interviennent au 11e jour de la guerre entre les deux pays. Israël affirme que plus de 15 avions de combat ont frappé la région de Kermanshah et qu'ils ont neutralisé des sites de lancement et de stockage de missiles sol-sol dirigés vers le territoire israélien. L'armée israélienne dit poursuivre ses efforts en vue de réduire les capacités militaires du régime iranien. Les frappes ont été décidées suite à des renseignements précis provenant des renseignements militaires israéliens. C'est ce que précise le communiqué. Cela arrive après que les États-Unis ont mené, dans la nuit de samedi à dimanche, des attaques inédites contre 3 sites nucléaires iraniens. Hier soir, le Premier ministre israélien a estimé que son pays était très proche de ses objectifs de guerre contre Téhéran, cela dit-il grâce aux frappes américaines. Et suite à ces frappes, l'Iran a menacé de s'en prendre aux bases militaires des États-Unis au Moyen-Orient. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique tient ce lundi à Vienne une réunion d'urgence. Il estime impossible à ce stade d'évaluer l'étendue des dégâts sur les 3 sites nucléaires bombardés par l'aviation américaine. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à l'ONU, ce dimanche à New York, le secrétaire général Antonio Guterres a dénoncé le risque que le monde s'engouffre dans un cycle sans issue de représailles.
François-Xavier de Calonne. Et donc cette actualité dominée par les frappes des États-Unis la nuit dernière contre 3 sites nucléaires clés en Iran. Je vous le disais, Washington rejoint ainsi l'offensive lancée par Israël le 13 juin. Quelques heures après, l'Iran a lancé 40 missiles sur Israël et accusé les États-Unis de faire exploser les chances d'un règlement diplomatique du dossier nucléaire. Cela marque-t-il donc l'échec de la diplomatie américaine? Question posée à Evan Gafaiti, chercheur doctorant en relations internationales à l'université Panthéon à Sasson. L'écoute.
Interview.
Pour revenir factuellement, donc c'est des frappes qui ont été réalisées ce dimanche à 2h du matin. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévisible? Malheureusement, oui. Je pense qu'on était assez peu à vouloir y croire de manière crédible, sérieuse et probable. Mais c'était quelque chose, en fait, qui était demandé par Israël depuis, non pas le début de la guerre, le 13 juin 2025, mais depuis des années. L'État israélien a toujours appelé à des frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes. Maintenant, c'est chose faite. Et alors, vous me demandez, est-ce que c'est un échec de la diplomatie? En réalité, dans l'absolu, objectivement, oui, mais subjectivement, pour Donald Trump, non. Pour développer ma réponse, oui, effectivement, lorsque vous attaquez votre interlocuteur, il paraît assez malaisé de vouloir ensuite discuter avec lui. Et peut-être pour un peu recadrer, ces frappes sont d'autant plus incompréhensibles que 48 heures en arrière, vous aviez le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui était à Genève pour rencontrer ses homologues anglais, français et allemand. Et ces 4 ministres s'étaient complètement entendus sur le fait qu'il fallait trouver une issue diplomatique à la situation. Donc déjà, effectivement, il faut dire que la diplomatie était toujours une voie considérée par un des 2 belligérants à minima, à savoir l'Iran, mais aussi avec ensuite l'Europe. Les États-Unis négociaient avec l'Iran avant le 13 juin, voulaient continuer de négocier et ont complètement intégré les attaques israéliennes, illicites soit dit en passant, comme un élément dans leur stratégie diplomatique. Vous avez vu comment le président Trump disait, regardez, maintenant que l'État iranien est sous pression du fait des attaques israéliennes, il faudrait vite négocier tant qu'il y a encore quelque chose à négocier, tant qu'il y a encore des choses à obtenir.
Des propos recueillis par François-Xavier de Calonne. Regard à présent sur les conséquences de l'implication directe ce dimanche des États-Unis dans la guerre entre l'Iran et Israël. Sur le sujet, le directeur du CERNAM, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, Hasni Abidi.
Le plan régional, évidemment, les États de la région sont les plus inquiets. D'ailleurs, ils l'ont fait savoir à maintes reprises et la conférence de l'OCI islamique l'a bien montré hier, où tous les membres ont d'abord affiché une solidarité, puisque l'Iran fait partie de l'organisation de la conférence islamique, mais aussi il y a le risque d'escalade, c'est-à-dire que tout dépendra de la réaction iranienne. L'Iran peut toujours désactiver les acteurs qui certes sont affaiblis, donc ses proxys dans la région. La menace de détroit d'Hormuz, elle plane toujours sur le commerce mondial, les sites américains, etc. Donc tout ça, c'est la région, c'est ce qu'on appelle l'environnement iranien. C'est l'environnement le plus vulnérable en cas d'une réponse musclée des Iraniens, qui jusqu'à maintenant ont plutôt mesuré et ont épargné même donc de toucher aux intérêts américains. Les Américains eux-mêmes n'ont pas touché le site Bouchehr, qui est très proche des pays du Golfe, et ils n'ont pas ciblé aussi les installations pétrolières et gazières pour soigner un peu leurs relations avec les pays du Golfe.
Et aujourd'hui, justement, quelles peuvent être les cibles de l'Iran? Comment évaluez-vous son arsenal et comment l'Iran peut-il toucher aujourd'hui ses ennemis, en plus d'Israël?
En termes de missiles balistiques, l'Iran, selon ses propres informations, il dispose encore d'un stock en mesure de porter des coups à la sécurité israélienne. Mais ce scénario, c'est-à-dire s'il y a une intensification des frappes contre Israël, les Américains pourraient trouver dans cette réponse l'élément, l'alibi, pour légitimer encore un renforcement de leur implication dans cette guerre. Et là, il faut dire que Benjamin Netanyahu a réussi un grand coup en impliquant les États-Unis, au bout de quelques jours, au bout exactement de 10 jours, il a réussi à impliquer les États-Unis. Les cibles existent, mais encore une fois, l'objectif ultime des Iraniens, c'est la sécurisation du régime iranien, qui passe nécessairement désormais par la sécurisation de leur programme nucléaire iranien.
C'était donc Hasni Abidi au micro de François-Xavier de Calonne. Et l'implication directe des États-Unis dans la guerre contre l'Iran, 3 sites nucléaires, hein, je le rappelle, c'est vraiment l'information principale, ont été attaqués dans la nuit de samedi à dimanche. Qu'est-ce qui pourrait entraîner alors un risque de radioactivité? Question posée au président de l'IPSE, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, Emmanuel Dupuis.
Rafael Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'est voulu rassurant, plus que rassurant. Peut-être d'ailleurs faut-il en être un peu inquiété, parce qu'il a été très rapide pour dire qu'il n'y avait aucun risque de contamination nucléaire, que ce soit par rapport à la destruction d'un réacteur sur la centrale atomique de Natanz il y a quelques jours par suite aux frappes israéliennes, et notamment là pour les suite au raid des F-35 israéliens, mais surtout par rapport à la destruction massive, en tout cas preuve en est avec les images, d'un bombardement intensif, donc de bombes qui sont au minimum à 110 tonnes de TNT, donc plus puissantes que les bombes atomiques par rapport à la capacité donc détonative des bombes atomiques qui ont été utilisées à Hiroshima et Nagasaki. Donc est-ce que la question est pour l'instant minorée, pour ne pas dire marginalisée? En tout cas, il faut faire très attention, parce que ça fait partie aussi de la narration iranienne de dire que ces frappes sont impérativement à proscrire, voire à juguler, parce qu'il y aurait un risque vis-à-vis de la population. Si on en croit l'AIAE, ce risque n'existe pas. Si on en croit un certain nombre de voix défendant ou ayant tendance quand même à chercher un arrêt des combats, on peut avoir l'impression qu'il y a un peu d'instrumentalisation par rapport à cette question donc de la dangerosité nucléaire liée au bombardement de ces sites.
Une question qui pourrait être au cœur de l'actualité dans les jours à venir.
Elle peut être d'actualité beaucoup plus pour Fordo que pour Natanz, pour une raison simple, c'est que la centrale atomique de Natanz n'était plus active. Et donc le risque de dissémination, de contamination nucléaire en est quasiment réduit à néant, avant même les frappes qui ont été occasionnées depuis maintenant un peu plus d'une dizaine de jours.
C'était donc Emmanuel Dupuis au micro de François-Xavier de Calonne. Un attentat suicide a endeuillé hier la capitale syrienne. Au moins 22 personnes ont été tuées dans une église de Damas. Une attaque imputée par les autorités au groupe État islamique. C'est la première fois depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre dernier quand l'acte frappe le cœur de la ville. Les détails avec Nadia Bencher.
Dimanche matin, en pleine prière, un homme armé fait irruption dans l'église Saint-Élie dans le quartier de Douala. Il ouvre le feu avant de déclencher sa ceinture explosive. La déflagration déchire l'édifice. Des débris de bois et des icônes jonchent un sol maculé de sang. Le bilan est lourd, 22 morts, 63 blessés. Les secours évacuent les fidèles sous les yeux hagards des habitants. L'émotion est vive bien au-delà du pays. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen a réclamé une enquête approfondie, tandis que Washington et Paris condamnaient un acte de lâcheté contre une minorité vulnérable. Tous appellent à protéger les minorités et à garantir leur place dans une Syrie en reconstruction. Un nouveau défi sécuritaire pour Damas, protéger les minorités chrétiennes, est devenu un test majeur pour les autorités en place depuis décembre 2024. Déjà en mai, les services de sécurité avaient démantelé des cellules de l'État islamique près de la capitale et à Alep, faisant plusieurs interpellations. Le ministre de l'Intérieur, Anas Rattab, a assuré avec fermeté que l'État syrien ne céderait pas à la terreur et poursuivrait ses efforts pour la paix civile.
Les précisions de Nadia Bencher. Et cette attaque a été vivement condamnée par le directeur de l'œuvre d'Orient, Monseigneur Pascal Golnisch. On l'écoute.
Bien sûr, je suis horrifié et effaré. Cela nous ramène un petit peu à la situation à Bagdad il y a 15 ans où il y avait eu un attentat contre une cathédrale catholique syriaque. Là aujourd'hui, c'est une cathédrale grecque orthodoxe à Damas, mais également durant une messe qui est complètement contraire au principe de tradition de l'islam d'intervenir ainsi dans un lieu du culte. La plupart des musulmans respectent la prière et même la prière des chrétiens. Donc nous sommes complètement horrifiés. Comme vous le dites, il y a de nombreux morts et comme toujours, sans doute 2 à 3 fois plus de blessés, ça veut dire des gens qui peuvent être estropiés à vie. C'est un drame pour les familles, bien sûr, tout le monde le comprend. C'est un drame pour la communauté chrétienne et qui est déjà dans une extrême inquiétude sur la situation sécuritaire de la Syrie, et dans une grande incertitude sur son avenir, et qui donc hésite à reprendre le chemin de l'immigration. Cela risque de provoquer véritablement un exode des chrétiens.
Et vous lancez un appel également aux autorités syriennes et internationales. Vous leur demandez de prendre immédiatement les mesures nécessaires. Quelles peuvent être ces mesures ?
Bien, écoutez, de fait, nous avons rencontré le président syrien, je l'ai rencontré. Il faut donc avoir les relations voulues pour le bien du peuple syrien. La question n'est pas de savoir si cela nous convient ou pas, c'est pas à nous d'en décider, c'est au peuple syrien. Il s'agit donc de servir le peuple syrien. Ceux qui ont pris le pouvoir à Damas ont trouvé un pays qui est en déliquescence, un État qui ne fonctionne plus, une armée qui s'est effondrée, des institutions qui sont déliquescentes, un peuple syrien qui est dans une extrême pauvreté, l'économie syrienne est arrêtée, les sanctions internationales ont nui aussi au développement de la Syrie, en particulier le blocage bancaire qui a été très redoutable sur la Syrie. Donc c'est dans ce climat qu'on voit cet attentat. Les autorités syriennes doivent prendre des dispositions et pas simplement avoir des mots de bienveillance, que je leur reconnais, mais bien prendre des dispositions concrètes de sécurisation des lieux de culte. Ça veut dire concrètement mettre des policiers à l'entrée des lieux de culte, comme parfois, au moment de grandes fêtes, il nous arrive de le faire en France à la demande du ministre de l'Intérieur. Par conséquent, il doit y avoir une sécurisation concrète devant tous les lieux de culte, en particulier ceux qui sont particulièrement menacés, comme les lieux chrétiens. Et donc, nous demandons aux autorités syriennes de mettre en œuvre une force de sécurité pour sécuriser les chrétiens, pour sécuriser les lieux de culte. Et nous demandons à la communauté internationale d'intervenir auprès des autorités syriennes pour que cela se fasse sans délai.
C'était Mgr Pascal Golnisch au micro de François-Xavier de Calonne. Et puis en France, hein, ce week-end, c'était la fête de la musique qui a connu une forte affluence à Paris et dans tout le pays, marquée par plus malheureusement de 150 cas de piqûres signalées. Le ministère de l'Intérieur a recensé 305 gardes à vue pour divers délits, dont 80 à Paris et 371 interpellations au total dans le pays. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette édition. On se retrouve à 15h et à 17h. Bonne suite des programmes sur Radio Orient.